Vous pensez au début, j'ai dit que le premier travail était considéré comme une dette, simplement parce que, voilà, pour l'administration du Châtelet, on peut faire pression sur un salarié ou sur un apprenti pour qu'il revienne à son travail en l'emprisonnant. Et il est considéré comme un prisonnier pour dette.
Donc, c'est autre chose.
Mais c'est encore autre chose. Hein. Absolument. Non, mais ce que vous dites là n'est pas en fait normal.
Alors, ça n'existe pas ou est-ce que ça pourrait exister dans d'autres catégories de dettes ou de procédures pour les mêmes régions? Non, vous pensez que ça n'existe pas?
Non, je dirais que là, c'est lié, parce que j'ai quand même un éclairage assez partiel. Je l'ai vu, au 15e siècle, à Paris. La question, c'est dans quelle partie de la documentation je l'ai vu et pourquoi j'arrive pas à vous remonter. Donc c'est pas non plus, c'est pas aberrant. C'est pas aberrant. Il faudrait que je vous retrouve le cas et la chose est grave, mais c'est pas non plus aberrant.
C'est d'autres questions de précision, je préviens, on va y revenir vraiment. Hein.
Peut-être de précision, puis après certains on reprendra.
Ouais,
c'est dans le fond de la pause, sur le crédit.
Bon, c'est la parole à Nadège Vézina, qui est doctorante au centre Maurice Halbach, qui travaille sur les conseillers financiers de la Poste, à la fois avec des entretiens, des questionnaires, mais aussi une volonté d'inscrire ça dans une histoire de quelques décennies. Et donc, comme on avait proposé la question des classes populaires ou des hiérarchies sociales, en fait, une des questions, c'est pourquoi la Poste, qui a l'image de banque des pauvres, finalement, ne fait pas forcément de crédit aux pauvres. Donc, tu vas revenir sur ça. Merci.
Alors, je vais commencer par mon prénom Diane. Je fais une thèse de sociologie sur les conseillers financiers de la Poste. Je m'intéresse plus spécifiquement à la professionnalisation par le haut des conseillers financiers, c'est-à-dire à la mise en place par l'employeur, par l'État, via le ministère des budgets, d'un groupe professionnel, les conseillers financiers, qui a été créé officiellement en 1991 avec la réforme, transformant cette administration d'État en entreprise publique. Et ce groupe professionnel d'autant plus mis en avant avec la création de la banque postale en 2006. Il faut néanmoins pas croire que les services financiers de la Poste ont des conseillers financiers pour exister, puisque la Poste est confiée en effet par l'État des missions financières dès la Troisième République, avec notamment la création du mandat postal. La mise en place des services financiers postaux, d'abord, puis des conseillers financiers, ont donc été progressives, et la majeure partie de ces évolutions a eu lieu entre les années 60 et aujourd'hui, puisque le processus n'est pas encore achevé. Il n'est pas achevé car nous verrons, en faisant la genèse du crédit à la Poste, hein, ce que j'ai cherché à faire dans le texte, que si le crédit social est cotère de très peu les classes populaires, c'est peut-être essentiellement parce que la Poste a depuis longtemps un accès limité au prêt. J'ai d'ailleurs intitulé mon papier dans le du crédit, pourquoi le crédit immobilier est le seul dont dispose la Poste. 53-2008, puisque entre 53 et 2008, c'est toujours le seul crédit dont elle dispose. Donc, en 2008, le conseiller financier de la Banque Postale peut distribuer des crédits immobiliers sans épargne préalable, mais il ne fait pas encore de crédit à la consommation ni d'assurance dommage. La Banque Postale ne dispose pas encore de tous les produits financiers, malgré son nom de banque, de tous les produits financiers proposés par les autres banques. Il n'a cependant pas fallu attendre 2006 de cette création de banque postale pour que la Poste demande à octroyer des prêts, des crédits à la consommation et des prêts personnels. Cette demande est très ancienne, tout comme les prêts consentis par la Poste, les premiers prêts qui datent, je vous l'ai dit, donc, la date de 1953, plus exactement avec le ministère des PPC. Donc, pour décrire ces étapes dans l'accès partiel, vous l'avez compris, de la Poste Crédit, je m'appuie sur plusieurs sources. Une enquête de terrain, menée de février à mai 2007 au sein d'une direction départementale des ressources humaines en province, sur l'analyse des textes parlementaires traitant de la gestion postale, surtout ceux faisant suite et précédant la réforme de 91. J'utilise aussi des archives pour saisir la période la plus ancienne. Le service national des archives de la Poste possède un certain nombre de documents constitués de la littérature grise de la Poste, mais aussi des documents officiels du groupe qui ont été conservés. Les documents trouvés aux archives nationales de Paris ainsi que les archives qui sont à Fontainebleau au centre des archives contemporaines me permettent de voir l'importance que prennent peu à peu les services financiers et les personnes qui en ont la charge. Les archives, j'utilise aussi les archives que je vais intituler, caisse dans le texte. Donc ce sont les documents conservés par le ministère de l'économie et des finances. Et ils me permettent de croiser les versions que chaque ministère, et l'action de chaque ministère sur cette question de prix, parce qu'il y a eu de grands enjeux. Donc toutes ces différentes sources vont permettre de suivre à travers le temps les débats sur l'octroi d'un crédit sans épargne préalable par la Poste et de retracer les réticences qui font que, des années 60 à aujourd'hui, la Poste ne dispose que de ce crédit immobilier. Donc, les aides du prêt à la Poste commencent à dès 53 avec un crédit immobilier, l'épargne construction. Cette mesure législative, loi en 53, doit être contextualisée. Donc en 53, nous sommes dans une période de reconstruction, d'après-guerre. Les problèmes de logement se font sentir du fait des démolitions de la guerre, mais pas seulement. Du fait aussi d'une hausse de la natalité, d'une amélioration du niveau de vie. Le gouvernement vote une loi par laquelle les PTT sont autorisés à consentir des prêts avec épargne préalable. On est obligé de amasser une certaine somme sur un compte avant que les PTT puissent consentir à ce prêt qui est exclusivement, dont le but est exclusivement de construire. C'est un prêt uniquement immobilier à ce moment-là. C'est l'épargne construction. En 59, elle se transforme en épargne crédit et deviendra en 65 le livret d'épargne logement tel que nous le connaissons aujourd'hui. Lui-même sera complété, ce livret d'épargne logement, par un plan d'épargne logement qui existe encore en 70. Donc l'épargne logement entre 53 et 70 n'est plus une mesure sociale prise par l'État au sortir de la guerre, mais devient un véritable produit financier postal à part entière. Mais la Poste n'évolue pas seule sur le marché des produits financiers et des prêts. Donc, pour dire un mot du contexte du marché bancaire, hein, jusqu'en 1965, les banques sont divisées en banques de dépôt et banques d'affaires. La Poste, à l'époque, n'est pas une banque, mais si elle pouvait être rapprochée d'un stéréotype, il est évident que ce serait celui de la banque de dépôt. Car, par la collecte de l'argent faite aux guichets des bureaux de poste, elle a pendant longtemps été le principal collecteur de fonds pour l'État. La dichotomie banque de dépôt, banque d'affaires, ça s'est fait avec les lois de Debré en 66-67, qui ont assoupli les contraintes réglementaires de l'activité bancaire, atténué la séparation entre ces banques d'affaires et banques de dépôt, et ont fait renaître la concurrence en autorisant la libre ouverture d'agences, de guichets. Les PTT qui ont fait face à ces nouveaux concurrents, donc, à cette date-ci. Voilà, ça coïncidera avec les demandes de prêts. Donc, il n'y a pas de tel élément, donc, cette ouverture, cette arrivée massive de la concurrence en 66-67 n'est pas le seul élément qui va abuser cette concurrence. L'obligation de verser les salaires des 69 ans, également les pensions de l'État des 75, sur un compte bancaire entraîna une bancarisation croissante des familles françaises et amena la Poste à gérer ses comptes, mais aussi initier les ménages français à la gestion de leur argent sur tout un mois et non plus de manière hebdomadaire comme ils en avaient l'habitude. On nous dit souvent que c'est pas si longtemps que ça. Donc, la mensualisation, dans cette optique, fut vite la cause d'une domiciliation massive des Français. Les banques préfèrent leur clientèle de domicilier leur bon retour pour devenir à terme leur seul établissement financier. Or, dans ce contexte, la Poste ne put que rarement être ou rester le seul établissement financier d'un client, du fait, entre autres, de son impossibilité à attribuer des prêts. Dans une enquête postale de 77, il montre d'ailleurs que le principal motif de clôture de compte est le double emploi avec un compte bancaire. Donc, je ne sais pas si ça peut expliquer des clôtures de compte à la Poste, mais celle-ci, les PTT, elles quand même complètement ratées, c'est peut-être important, mais sont complètement passées à côté de la bataille bancaire de la domiciliation des clients. Tout comme elle avait déjà raté en 67 lors de l'ouverture, celle des prélèvements automatiques de quittance. Les quittances EDF, les quittances, toutes les quittances, pour enfin ce service, dans les archives, on trouve des commentaires assez sympathiques du ministère des Postes, qui expliquent que ce service, aujourd'hui complètement généralisé de prix courant, n'est ni utile ni rentable et ne perdurera pas forcément. Donc on le fait, on est bien obligé de le faire sous les autres leçons, et il ne faut pas nos chiens pour les favoriser, donc le client en fait, que le terme clientèle date de 51, donc d'accord, un terme client, non mais clientèle à la Poste qui est utilisé, on trouve ça dans les bulletins officiels depuis 51 quand même. Donc ça fait, je ne peux pas croire que ça date de 91 et cette réforme du statut juridique. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose de compte, mais la Poste a quand même raté un certain nombre d'étapes importantes que les autres banques n'ont pas raté, justement. Donc, si la frappe qu'on recherche sur ses concurrents, la Poste envisage alors de nouveaux services tels que l'octroi de prêts personnels et de prêts immobiliers sans épargne préalable, puisque chez 53 de départ était avec épargne préalable. Voilà constitue la volonté de Postal d'obtenir des prêts, mais cette dernière ne peut être satisfaite qu'avec l'accord, l'aval du Trésor, et donc du ministère de l'Économie et des Finances. Pourquoi? Puisque, à cette époque, les PPP sont une administration d'État, n'ont donc ni autonomie financière, ni de trésorerie propre. Les fonds mis en dépôt par les particuliers au guichet des bureaux de poste sont directement reversés au Trésor public. Donc c'est eux qui ont le pouvoir sur ces fonds. De 71, la première demande faite par le ministère des PPP de Robert Gallet au ministère de l'Économie et Sciences de l'époque à 2006, où la Banque Postale obtint de faire des prêts immobiliers sans épargne préalable pour la toute première fois, le Trésor refusera toujours cette possibilité. Donc 71 à 2006, c'est un laps de temps assez conséquent. Donc pour comprendre ce blocage autour du crédit postal, il ne faut pas considérer l'État comme un flou non segmenté, comme une masse homogène. Autant le ministre des PPP défend l'obtention du crédit pour son administration, autant le ministre de l'Économie et des Finances s'y oppose catégoriquement. Pour justifier son refus, il y a plusieurs raisons. Notamment la compétence du personnel postal non formé. Alors que depuis 1923, il donne de l'épargne dans la construction. Donc non formé. Le caractère non nécessaire, pour les consommateurs comme pour le Trésor, de ces nouveaux services impliquant des risques. L'inopportunité a d'ailleurs déséquilibré le secteur bancaire déjà très concurrentiel. Mais surtout, l'argument le plus souvent mis en avant est celui de l'incompatibilité des prix, des prêts, du crédit, avec la mise en service public dévolue aux services financiers postaux. Je vous passerai la description de cette mission pour environ 7. Mais j'ai détaillé l'objection du ministre de l'Économie et des Finances. Les PTT ne vont pas suppléer une insuffisance bancaire, il y a déjà plusieurs établissements bancaires sur le marché, la concurrence d'activités privées avec un service public pose problème. Elle ne peut pas se justifier, en effet, par le principe de subsidiarité de l'action publique sur l'action privée défaillante. C'est un principe qui existe de droit, je le dis, quand on estime que l'action privée, que les initiatives privées sont défaillantes, les entreprises publiques, l'action publique peut prendre la place. Or là, elle ne peut pas entrer sur ce justificatif. Donc le principe de subsidiarité ne peut pas passer. De plus, au nom des principes de service public, d'égalité et neutralité notamment, il y en a trois de continuité également, mais là, d'égalité et neutralité, le Trésor se demande comment un fonctionnaire pourrait être amené à refuser des prêts à certaines personnes et à les accorder à d'autres sans enfreindre ces principes d'égalité du service public. Cet argument du service public pour motiver le refus du Trésor va sauter quand, malgré la réforme de 1991, la Poste, bien qu'ayant changé de statut juridique, donc pouvant logiquement s'ouvrir sur les prêts à ce moment-là, n'eut pas davantage qu'auparavant le droit de distribuer des prêts. Ça m'interroge. Ensuite, en dépit de ces transformations donc organisationnelles de 1991, les possibilités postales de crédit restèrent inchangées, on l'a dit. Il faut donc se garder, et c'est tout l'intérêt de l'approche socio-historique, d'associer de façon trop rapide toutes ces transformations postales à un effet de l'introduction de la concurrence, le fameux mythe de la privatisation postale, qu'on voit partout et finalement qui n'est pas si présent. Le prisme du crédit à ce moment-là me sert à dépasser la réforme de 90 et à ne pas surestimer le rôle de ces réformes de statut juridique dans l'organisation, puisqu'on voit que tout le débat vraiment d'avant ces réformes, ce ne sont pas ces réformes-là qui ont amené la banque postale et ont amené surtout le crédit à la poste. Il faut donc chercher plus loin les raisons des résistances du Trésor. Peut-être un divergent de vue qui existe entre le Trésor, partisan d'un effacement progressif des services financiers de taux, et le ministère des PTT, défenseur d'un développement conséquent. Sachant que l'un veut le faire disparaître et l'autre veut le faire s'épanouir, progresser et monter en gamme, et en un moment, voilà, ça va bloquer. Donc, ces vues contradictoires concernant l'avenir postal ont une implication directe sur, pour chacun, la nécessité de mettre en place l'octroi de crédit d'un côté et celle de refuser de l'autre. Toutefois, si ce statu quo sur le crédit a longtemps duré, la Poste n'est arrêtée sans aucune évolution entre 1971 et 2006. Il ne faut pas que je vous laisse croire ça. vous donner quelques éléments de produits financiers qu'elle a pu obtenir. Elle obtient en 82 la possibilité de découvert, nommé sous un joli euphémisme à l'époque, facilité exceptionnelle de gestion de compte. Voilà. Il s'agit du découvert, mais la poste à ce moment-là, sa licenciée ne peut pas faire du découvert. Soit dit en passant, ce sera une facilité exceptionnelle de gestion de compte. Puis elle a reçu l'autorisation de.
Moi, j'ai non un café.
Oui, bien sûr. Oui, comme d'habitude. Ah oui, c'est vraiment les mêmes règles, ils expliquent clairement que, voilà, ils seront bien sûr, et même sous les retards, seront. Le fait d'être toujours très optimisé, c'est vraiment le même fonctionnement.